Radio Prague, les informations.
Plus de visas américains pour la Pologne, pourquoi pas pour la Tchéquie? Début de la conférence internationale des journalistes sur le thème de l'extrémisme. Encore des cas de grippe aviaire en Tchéquie. Le Premier ministre tchèque Jiří Paroubek vient de déclarer que si les États-Unis décident d'abolir les visas pour la Pologne, Prague est prête à œuvrer pour qu'il en soit de même avec la Tchéquie. D'après le porte-parole de l'ambassade américaine à Prague, Jan Kirch, le gouvernement américain œuvre pour que la Tchéquie soit aussi classée parmi les nouveaux membres de l'Union européenne, dont les citoyens peuvent se rendre aux États-Unis sans visa. À Liberec, en Bohême du Nord, vient de commencer la conférence internationale des représentants des moyens d'information sur le thème de l'extrémisme. D'après les participants, les jeunes de Tchéquie et d'Allemagne surtout sont entraînés dans des tendances d'extrémisme politique ou religieux, de conflit ou de violence. Les services vétérinaires viennent d'enregistrer deux nouveaux cas de grippe aviaire en Moravie du Sud. La maladie a été détectée chez deux cygnes dans la région de Bratislav. Les tests ont confirmé qu'il s'agit du virus H5, dangereux pour l'homme aussi. En Tchéquie, 14 cas de grippe aviaire ont été détectés jusqu'à maintenant. Jan Havlíček, âgé de 100 ans, vient de disparaître. Il faisait partie des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient fui la Tchécoslovaquie pour rejoindre la résistance à l'Allemagne hitlérienne en Grande-Bretagne. Après la guerre, il était revenu en Tchécoslovaquie pour devenir enseignant. Ses mérites n'ont été reconnus qu'à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre. C'est samedi que commence la semaine de protestation des employés du secteur de la santé publique en Tchéquie. Les dentistes l'ont invité le ministre de la Santé, David Rath, à participer à leur congrès, où il compte bien lui demander des comptes, car il l'accuse d'avoir fait revenir le secteur de la santé à l'état d'avant 1989. Le ministre qualifie la semaine de protestation d'action préélectorale de l'opposition. Dans plus de 100 pays du monde, des marches de la faim auront lieu ce dimanche. Prague se joint à cette action pour la troisième fois déjà, avec une marche de la faim qui partira de l'esplanade de l'Etna dans le 6e arrondissement. Contre le danger du sida, des joueurs de tambour mettront en garde dimanche aussi à 14h sur la place Venceslas. Selon Petra Buzková, ministre de l'Éducation de la République tchèque, qui a participé à une rencontre avec ses homologues de l'Union européenne à Bruxelles, le programme Erasmus est celui qui revêt le plus grande importance pour la Tchéquie, car il soutient les échanges de pédagogues et d'étudiants à un très haut niveau. L'Union compte investir près de 7 milliards d'euros dans les programmes d'éducation au cours des 7 années à venir. La météo, qui nous annonce un temps printanier avec des températures un peu au-dessous de la normale quand même, mais avec très peu de précipitations. Plus de 20 degrés dans la journée, mais les nuits resteront encore assez froides. Bonne fête le 20 mai au Zbyšek, un prénom masculin pas très courant en Tchéquie. C'était les informations par Alain Slimanski sur Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie pour ce tour d'horizon de l'actualité en République tchèque que nous ouvrirons avec le pèlerinage militaire à Lourdes qu'effectuent ce week-end 150 soldats tchèques. Nous évoquerons ensuite un événement culturel marquant avec l'ouverture du musée archidiocésain à Olomouc en Moravie. Nous serons ensuite plus terre à terre avec du football et un entretien avec le milieu de terrain de l'équipe nationale et des Girondins de Bordeaux, Vladimir Schmitzer, avant de boucler ce programme avec un mélange de culture et de sport, puisque ce sera la danse qui sera à l'honneur. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Près de 150 militaires de l'armée tchèque, personnel civil de la défense et leurs familles sont partis pour Lourdes où le 48e pèlerinage militaire international se déroule du 19 au 21 mai. Plus de détails avec Jarka Gisubelova.
L'armée tchèque participe déjà depuis 1992 au pèlerinage militaire international à Lourdes. La participation est désormais organisée par le service spirituel de l'armée tchèque qui a vu le jour en 1998. Le principal aumônier militaire, le sous-lieutenant Tomáš Holub, qui était à l'origine de ce service et qui se trouve à sa tête, nous dit quel est le thème du 48e pèlerinage à Lourdes.
Le thème de cette année a été choisi par le président du pèlerinage, l'évêque aux armées françaises, Mgr Le Gall. Il est tiré de l'évangile selon Luc et le suivant « Tenez vos lampes allumées ». Un thème qui évoque trois attitudes significatives pour les militaires. l'attente, la vigilance et l'endurance. Dans le contexte militaire, c'est un appel à ce que les soldats soient prêts et disponibles à défendre les valeurs qui sont liées au christianisme, la justice, la liberté et la paix.
La délégation tchèque partie mercredi soir par autobus est arrivée ce vendredi à Lourdes. Tomáš Holub évoque les principaux points au programme du pèlerinage.
Le programme officiel commence vendredi après-midi par la célébration d'ouverture internationale. La journée de samedi est sous le signe de cérémonie nationale. Chaque pays célèbre sa messe en hommage aux soldats tombés. Il y a des processions mariales et le pèlerinage culmine dimanche par une messe internationale célébrée à la basilique de l'Immaculée Conception par l'évêque français Le Gall en présence d'autres évêques et aumôniers en chef d'Europe et d'Outre-mer.
Depuis 1998, date de signature de l'accord entre le Conseil œcuménique de l'Église, la Conférence épiscopale tchèque et le ministère de la Défense sur la création du service spirituel de l'armée, plusieurs missions d'aumôniers ont eu lieu. Tomáš Holub, quant à lui, a participé activement à des missions en Bosnie, au Kosovo et avant encore sans statut officiel en Irak et au Koweït. Selon lui, le nombre actuel de 18 aumôniers de 5 églises correspond aux besoins de l'armée tchèque professionnelle. Et leur service est aujourd'hui perçu comme une évidence absolue.
Pour la vie culturelle de la ville d'Olomouc en Moravie centrale, c'est l'événement en lettres majuscules du début de la saison. Le 1er juin, la ville va enfin ouvrir les portes de son musée archidiocésain au grand public, un événement qui comporte d'autres facettes, comme nous l'explique Anna Kubišta qui se trouve à Olomouc.
Quand d'aucuns utilisent des bimbos affriolantes pour attirer le chaland sur ses produits, d'autres préfèrent l'exquise délicatesse d'une vierge à l'enfant. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs, puisqu'elle est l'emblème des affiches annonçant l'ouverture solennelle le 1er juin du musée archidiocésain de l'Olomouc. Drapée de tissu carmin dont le mouvement balancé semble presque être un instantané, la Madone de Sternberg dont il est question semble avoir été prise sur le vif. Ce petit bijou, qui date des alentours de 1390, est un des chefs-d'œuvre qui se présenteront au public dans les anciens locaux du doyenné capitulaire de l'Olomouc, entièrement restauré après des travaux de 6 ans qui auront coûté la modique somme de 270 millions de couronnes. C'est la visite en 1995 du pape Jean-Paul II qui a donné l'impulsion en appuyant fortement en faveur de la création d'une telle institution, reflétant une tradition spirituelle remontant aux époques les plus anciennes de la Grande Moravie, mais aussi celle du mécénat des puissants évêques et archevêques d'Olomouc. André Jakubec est conservateur du musée et il nous détaille le contenu des collections.
Il s'agit essentiellement d'une grande galerie de peintures qui appartenait aux archevêques d'Olomouc, qui remonte jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. C'est elle qui justement sera un des pivots du musée archidiocésain, puisque les espaces spéciaux vont leur être réservés. Le reste provient d'un côté également du patrimoine de l'archevêché, mais pour une grande partie des territoires archidiocésains, sans qu'il ne s'agisse de propriété de l'archevêché. Ce sont des emprunts auprès de différentes paroisses. Il doit y en avoir plusieurs dizaines qui nous ont ainsi prêté qui un calice, qui une statue, etc. Puis il y a encore d'autres institutions plus modestes et laïques, différents musées.
Quelques 300 œuvres d'art seront ainsi accessibles au grand public dans les 16 salles du musée archidiocésain. Celui-ci a été fondé en tant que tel en 1998. Après une réforme mise en place en 2001 qui confiait la gestion du musée des arts de l'Olomouc à la région, au mois de mars de cette année, le ministère de la Culture a annoncé son intention de satisfaire les demandes récurrentes en faveur d'un financement public. Le musée des arts et sa nouvelle extension peuvent donc respirer, comme le souligne Andrzej Jakubec.
Cela a deux conséquences. L'une est bien entendu financière, car le ministère de la Culture a bien sûr plus de moyens que la préfecture de région. L'autre, c'est bien sûr une question de prestige. Il n'y a qu'un petit nombre d'institutions administrées ainsi par le ministère de la Culture, comme la Galerie nationale ou la Galerie Morave de Brno. Le musée des arts d'Olomouc, de par sa taille et le nombre de ses collections, entre déjà dans cette catégorie. C'était donc finalement logique que le musée des arts d'Olomouc et le musée archidiocésain, qui lui est lié, reviennent dans le giron de l'État.
podkryla státu.
Et l'exposition inaugurale de ce double événement ne sera rien moins qu'une présentation d'œuvres d'art médiévales françaises issues des collections tchèques et moraves. Pour plus de détails sur l'ouverture du musée archidiocésain et cette exposition à venir, rendez-vous dans une de nos prochaines rubriques culturelles.
À 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde de football en Allemagne, le 9 juin à Munich, les 23 joueurs appelés à défendre les couleurs de la République tchèque se sont retrouvés jeudi à Prague. Avant que le groupe ne prenne la direction de l'Autriche samedi pour un stage de préparation, nous avons rencontré Vladimir Schmitzer. Handicapé depuis le mois de février par une blessure musculaire derrière le genou droit, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux s'est toutefois déclaré confiant sur ses chances de participer à l'événement sportif de l'année.
Bon, ça va beaucoup mieux. Je pense que chaque jour ou chaque semaine, ça, comme j'avais dit, c'est beaucoup mieux et j'espère que je serai fit pour le premier match. Et bon, mais c'est pas sûr toujours. Mais j'espère. L'entraîneur, il m'a dit que il m'a donné le temps pour bien récupérer. Alors peut-être même pas, c'est peut-être même pas pour le premier match, peut-être pour le deuxième, je peux être bien, je peux être fit.
Que faites-vous actuellement pour vous soigner? S'agit-il déjà de rééducation et de se réentraîner de nouveau?
Non, je cours déjà, j'allonge la course, j'ai fait beaucoup d'exercices pour renforcer un petit peu la cuisse derrière parce que bon, c'est pas exactement les genoux, c'est plutôt la hamstring, le muscle derrière mon genou. Ça c'est difficile pour renforcer, mais je pense que vraiment je fais plus et plus chaque jour et bientôt on espère que dans 10 jours je peux commencer à s'entraîner avec l'équipe.
Cette blessure a gâché votre fin de saison avec Bordeaux qui a fait une très belle saison puisque le club a terminé deuxième depuis très longtemps alors que l'année dernière c'était plutôt la deuxième partie du tableau pour les Girondins. Malgré tout, quel regard portez-vous sur cette première saison à Bordeaux et votre retour en France?
Moi personnellement, je suis super content. Même malheureusement, vraiment, j'étais blessé en février, à la fin février, et je pouvais pas jouer pour la dernière 2-3 mois. Mais parce qu'on a terminé deuxième, on est qualifié pour Champions League, c'est excellent. Je pense, moi personnellement, ma saison, c'est dommage, comme je l'ai dit. Mais quand je regarde, surtout comme l'équipe, on a bien renforcé l'équipe, on a acheté 5-6 nouveaux joueurs. Et on avait beaucoup admis, on a beaucoup travaillé, l'entraîneur il était super bien, tout marchait bien, alors c'est pour ça je pense qu'on a fini deuxième.
Votre contrat se poursuit pour la saison prochaine?
Oui, j'ai encore un an et vraiment je suis content parce qu'on va jouer Champions League et voilà, c'est pour ça je suis signé à Bordeaux parce que je savais que Bordeaux c'était toujours un grand club en France et moi je suis content qu'on a bien sûr terminé deuxième.
Juste quelques dernières questions sur la Coupe du Monde quand même, puisque vous êtes là pour ça. Quel regard portez-vous sur le tirage au sort et le groupe de la République tchèque? Alors l'Italie, on connaît. En revanche, les États-Unis et le Ghana, c'est moins connu, mais c'est solide quand même.
Oui, je pense que c'était très important, surtout le premier match contre les États-Unis, parce que le premier match, c'est vraiment très, très important pour tout le monde. Et bon, Ghana, on ne connaît pas trop. C'est vrai que l'Italie, ils sont forts. Cette année, je les trouve très, très forts. Bon, pour nous, essentiel, bien sûr, c'est qualifié pour 8e de finale. Et après, on verra. Mais le premier match contre les États-Unis, ça serait peut-être la clé pour nous dans ce championnat.
Vous pourrez entendre plus longuement l'ancien Lensois et désormais Bordelais Vladimir Schmitzer dans la rubrique sportive lundi et mardi prochain. C'est au théâtre Arka que le public de Prague a eu l'occasion d'assister ce jeudi au spectacle Que ma joie demeure, présenté par l'ensemble Les Fêtes Galantes, ensemble qui fait revivre sur scène la danse baroque. Václav Richter s'est entretenu sur le spectacle et sur la danse baroque en général avec Béatrice Massin, la chorégraphe de l'ensemble.
Quelle musique et quelle danse présentez-vous ces jours-ci à Prague?
Quelle musique, quelle danse, quelle question! Eh bien, le spectacle que nous présentons à Prague, c'est un spectacle qui est vraiment parti des musiques de Jean-Sébastien Bach. Essentiellement les concertos brandebourgeois, qui pour moi sont vraiment la musique qui m'a accompagnée et qui m'accompagne toujours. avant même de découvrir la danse baroque de laquelle je suis partie pour réaliser ce spectacle, c'est la jubilation, la tonicité de la musique de Bach qui m'a toujours séduite et je pense qui m'a amenée à danser un jour.
Quelles sont les sources dont vous disposez pour reconstituer cette danse ?
La musique, ce sont les partitions musicales, et là c'est l'enregistrement de Ton Koopman que j'ai choisi avec l'ensemble d'Amsterdam. Mais par rapport à la danse, on a énormément de sources de cette époque, même si on n'a pas tout et même si les questions sont constantes, c'est normal. Parce qu'à cette époque, on a inventé une écriture de la danse pour permettre à la danse française de rayonner sur toute l'Europe. Les maîtres à danser français étaient partis s'installer dans les cours étrangères et à la demande de Louis XIV, on a inventé une écriture de la danse qui nous est parvenue aujourd'hui et qui nous donne énormément d'informations.
Parlons maintenant de vos chorégraphies. Dans quelle mesure vous vous inspirez de ces sources baroques et dans quelle mesure vous utilisez votre propre invention ?
C'est un peu comme une relation amoureuse. Dans un premier temps, on rencontre quelqu'un et on ne veut pas le quitter. On est au plus près de ce qu'il fait, on est collé à lui. Ma première relation au baroque, quand je l'ai découvert alors que je venais de la danse contemporaine, c'était tellement une relation de respect, de découverte et d'amour, que je n'osais rien en faire, même si je me rendais bien compte qu'il y avait des tas de choses à essayer d'imaginer, parce que je pense que cette danse peut être complètement actuelle et toucher tout le monde aujourd'hui. Mais c'était une relation très, très en osmose. Et puis, au fur et à mesure des années de travail, au fur et à mesure de l'envie de la création, il y a une liberté qui s'est prise, il y a un détachement qui s'est pris, comme une relation où la complicité peut jouer même si on est très loin, même si on est très éloigné. Je crois que c'est un peu cette relation que j'ai établie avec la danse baroque, c'est-à-dire qu'elle est toujours là. Elle est toujours dans mon travail avec la musique, dans mon rapport au sol par rapport à cette spécificité de la danse baroque qui sont des pas très glissés, très, très rythmiques aussi. Mais je crois que maintenant je suis capable, comme une femme qui a quelques années de vie commune avec la danse baroque, de prendre une liberté qui m'amène vraiment à la préoccupation d'aujourd'hui.
Depuis l'époque baroque, la danse a beaucoup évolué. Est-ce que la danse moderne se reflète d'une certaine façon dans vos chorégraphies baroques ?
Complètement. Complètement, je pense que la danse a beaucoup évolué, en effet, depuis l'époque baroque. Mais je pense qu'avec la matière baroque, on n'est pas éloigné du travail de Lucinda Childs ou d'Anna Teresa de Kersmacher. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment sur une économie du mouvement, mais en même temps sur un rapport au sol et sur un rapport au temps et à l'espace, qui sont des préoccupations complètement contemporaines et de tous les chorégraphes contemporains.
Et une dernière question, qu'est-ce que la danse baroque peut donner aux spectateurs et aux danseurs modernes ?
Un immense enrichissement. Je pense que pour les danseurs contemporains, et notamment ici à Prague, puisqu'un grand travail se fait avec l'association Sesta de Marie Kinski, c'est une découverte de l'exigence, c'est une découverte de la précision du temps, de la coordination du corps. Mais je crois aussi que c'est vraiment une école d'un seul coup de comprendre un peu comment tout un style de danse a pu exister autour d'un rapport très 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 précis au rythme et au temps.
Voilà, c'est la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention. Et avant de passer à l'économie, place encore au grand jeu concours de Radio Prague.
Radio Prague fête son 70e anniversaire en 2006. À cette occasion, nous organisons un grand concours original qui sera basé sur vos capacités d'écoute et vos connaissances des sons. Nous vous ferons entendre trois extraits provenant de nos archives. Pour participer au grand concours 2006, vous devrez identifier ces extraits et écrire un court commentaire pour chacun d'entre eux. L'auteur de la réponse juste la plus originale sera invité à un séjour d'une semaine à Prague pour deux personnes. Les auteurs des meilleures réponses recevront des prix de valeur. Et tous ceux qui sont déjà venus à Prague devraient reconnaître le premier extrait, mais si ce n'est pas le cas, il n'est pas non plus difficile de découvrir d'où il provient.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Le deuxième extrait évoque l'un des événements les plus dramatiques du XXe siècle dans l'histoire de Prague, un événement lors duquel la radio tchécoslovaque a joué un rôle très important.
Víte, na Am I comes in English? Help us. We need guns. There are too many Germans.
Et le troisième et dernier extrait provient d'un symbole du quartier de la vieille ville de Prague. Vous avez deviné ? Si oui, vous envoyez vos réponses avant le 18 juin 2006 à l'adresse Radio Prague, Vinohradska 12, Vinohradska 12, V-I-N-O-H-R-A-D-S-K-A, code postal 120-99, Prague 2, République Tchèque. Et vous pouvez aussi naturellement utiliser l'adresse courriel cr@radio.cz. La proclamation des vainqueurs sur les ondes se fera le 1er et 2 juillet 2006.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette rubrique économique hebdomadaire, une émission dans laquelle nous allons parler aujourd'hui, évidemment en premier lieu, de l'accord entre Hyundai Motor et le gouvernement tchèque. Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor a en effet signé jeudi avec les autorités tchèques le contrat de construction d'une usine à 1 milliard d'euros, soit l'un des plus importants investissements directs dans l'histoire du pays. Cet accord met fin à 6 mois de pourparlers intenses. Les discussions ont été en effet troublées par le scandale de corruption qui éclabousse le conglomérat coréen. Un conglomérat coréen qui vise le 5e rang mondial d'ici 2010 contre le 7e actuellement. Et selon les autorités tchèques, les premières voitures sortiront de l'usine début 2009 au plus tard. Le site produira 300 000 voitures et 600 000 transmissions par an et emploiera 3 500 salariés d'ici 2010. Quand il tournera en fait à pleine capacité. Le calendrier risque cependant d'être perturbé par l'arrestation du président de Hyundai, Chung Mong-ko, qui a été inculpé très récemment de détournement de fonds. On passe au marché d'échange avec la couronne tchèque qui a pulvérisé des records historiques de vigueur aussi bien face à l'euro qu'au dollar la semaine dernière. Sur un an, la couronne s'est appréciée de plus de 7% face à la monnaie unique et de 9% vis-à-vis du dollar, et ce grâce au dynamisme de l'économie tchèque dont la croissance dépasserait 8% au premier trimestre, attirant donc comme un aimant les capitaux étrangers. Ces nouveaux records ont été enregistrés après l'annonce d'un excédent de la balance des paiements courants, 2 fois plus important qu'anticipé, pour un montant qui s'élève à 3,04 milliards de couronnes en mars. Du marché d'échange, on passe au marché nucléaire avec la société publique russe Tvel, spécialiste du combustible nucléaire, qui a annoncé mercredi qu'elle avait décroché un contrat sur 10 ans pour la fourniture de combustible à la centrale nucléaire tchèque de Temelin, et ce au terme d'un appel d'offres. Les responsables de Tvel et ceux de la compagnie électrique tchèque ČEZ Group ont signé mardi à Prague un contrat pour la livraison au total de 400 tonnes de combustible nucléaire à partir de la fin 2009. C'est ce que précise la société russe dans un communiqué, sans toutefois dévoiler le montant du contrat. Les Russes ont emporté ce contrat devant les Américains de Westinghouse, Westinghouse qui fournissait jusqu'ici du combustible aux 2 réacteurs de Temelin et était également candidate à l'appel d'offres. Tvel fournit également du combustible nucléaire à la centrale de Dukovany en Moravie. Les groupes japonais d'électronique Hitachi et Matsushita Electric Industrial pourraient investir jusqu'à 1 milliard 200 millions d'euros en République tchèque. C'est ce que rapportait mardi le quotidien économique Hospodářské noviny. Un potentiel consortium Hitachi-Matsushita chercherait à implanter sur place une usine de fabrication de téléviseurs à cristaux liquides et de composants électroniques haut de gamme. La première phase de l'investissement d'Hitachi Matsushita pourrait permettre de créer 2000 à 4000 emplois dans le pays et 12 000 au total par la suite. Matsushita, le premier fabricant mondial d'électronique grand public, qui détient notamment la marque Panasonic, a déjà implanté des usines produisant des téléviseurs et des autoradios en République tchèque. Et on passe pour finir aux investissements de groupes français en République tchèque, à commencer par Bouygues Construction, la filiale du groupe Bouygues,
qui a annoncé la semaine dernière le rachat pour un montant non communiqué de la société tchèque VCES. Cette société, VCES, emploie 1100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros l'an dernier. Le chiffre d'affaires de Bouygues Construction était de 200 millions d'euros en Europe centrale, soit 8% de ses ventes à l'international. Et puis du bâtiment, on passe aux produits laitiers avec le groupe français Lactalis qui vient d'acquérir Promil, une société située en République tchèque et qui fabrique principalement du fromage. En 2005, l'entreprise en a produit 8500 tonnes. Promil est le leader du marché du fromage râpé et deuxième sur celui du fromage en tranche, avec un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions d'euros et 204 personnes employées. Et c'est déjà l'heure de refermer cette page économique. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que pour de plus amples informations, vous pouvez consulter Internet sur notre site www.radio.cz. C'est également la fin de nos programmes en français pour aujourd'hui sur Radio Prague. Merci de nous être fidèles. À demain, même heure, même fréquence.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.